CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du MAG dans lequel on va vous proposer de vous rendre à Millars pour la fête de l'osier de ce dimanche. Mais avant ça, et dans le cadre de la fête de la nature, une sortie et une conférence autour des reptiles et amphibiens du département.
CFM.
L'Université populaire de Caussade nous propose tout un programme de réjouissance pour ce week-end. À partir de ce soir, vendredi, à 20h30, à cette fois, une sortie sur le terrain animée par Philippe Manella. Il est chargé de mission environnement et biodiversité au sein du CPIE Quercy-Garonne. Une visite pour petits et grands avec une balade autour de deux ou trois mares, découverte des amphibiens, des espèces protégées, crapauds, grenouilles, tritons, rainettes, salamandres, etc. La présentation des principales espèces du territoire, leurs particuliers, leurs habitats et surtout comment les préserver. Une sortie à laquelle il faut absolument réserver auprès du CPIE Quercy-Garonne de Quélus. Allez donc faire un tour sur leur site internet pour réserver vos places avec l'Université Populaire. Conférence demain, samedi à 16h30 au Récollet, une conférence autour des amphibiens et reptiles du Tarn-et-Garonne. On reste dans ce terme et une conférence animée par Sébastien Albini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle biodiversité d'un bureau d'études d'environnement et membre de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne. Alors, 11 espèces d'amphibiens, 13 espèces de reptiles. Ça fait. On est dans la moyenne, là ?
On est dans la moyenne, sachant qu'il y a probablement une espèce de reptile en plus dans le département, mais bon, qui n'a jamais été trouvé jusqu'à présent, mais qui est présent sur la commune de Penne, là, juste en bordure du département. Donc en fait, il ne reste plus qu'à le découvrir de ces jours sur les communes voisines.
Et comment vous avez pu soupçonner qu'il soit là si vous ne l'avez jamais vu ?
Alors en fait, cette espèce, c'est le cepstrier, qui est une espèce, si vous voulez, d'orvée avec des petites pattes. Et qui a été retrouvée dans le département du Tarn autour des années 2010. Par un agriculteur qui a fait des photos, qui les a envoyées à l'association Nature en Occitanie, qui est basée sur Toulouse. Et donc, les naturalistes de l'association ont identifié un ceps, donc cette espèce particulière de reptile. Et la découverte s'est faite comme ça, tout simplement. Et c'était une espèce qui n'avait pas été réobservée dans le Tarn depuis les années 1880 environ.
Vous allez débuter cette conférence par une présentation des exigences écologiques de ces amphibiens et reptiles. Alors, de l'eau ?
Oui, c'est ça.
Du soleil,
alors,
de l'air.
Pour les amphibiens. Donc, les amphibiens, ce sont des espèces qui ont un mode de vie biphasique. Donc, ils vont passer la première partie de leur vie sous forme d'œufs ou sous forme de larves, dans de têtards, pour tout ce qui est grenouilles et crapauds. Donc, dans l'eau, dans des milieux aquatiques. Et ensuite, une fois qu'ils se métamorphosent, qu'ils se transforment en petits crapauds, petites grenouilles, petites salamandres, petits tritons, ils vont occuper des habitats qu'on appelle terrestres, des milieux terrestres, c'est-à-dire des jardins, des boisements, tous les milieux naturels qu'il y a autour des points d'eau. Et concernant les reptiles, donc nous n'avons pas, ce ne sont pas des espèces qui ont un mode de vie biphasique, donc les serpents, ils naissent, ils sont pondus dans des tas de fumier, dans des zones là où il va y avoir une chaleur constante pour pouvoir permettre le développement des œufs. Et donc après, ils vont mener leur vie dans les naturels aux alentours.
Un essai des lieux peut-être de la répartition départementale de ces espèces d'amphibiens et reptiles. On imagine que c'est pas partout pareil. Par exemple, dans les gorges de l'Aveyron, ça doit foisonner, contrairement au plateau là.
Alors comme c'est une grande problématique actuelle de la société actuelle, tous les milieux les plus anthropisés, c'est-à-dire les plus modifiés par l'homme, donc tout ce qui est zone de grande culture, zone urbaine, sont plus pauvres en termes de biodiversité, bien plus pauvres en termes de biodiversité que les milieux qui sont restés entre guillemets naturels. En tout cas, ce sont des milieux qui sont restés semi-naturels. Donc, au niveau du département, vous avez toute la partie est du département, extrême est du département, qui correspond grosso modo à la zone des Causses du Quercy, là. Pays midi Quercy, de point de vue administratif, toute la partie gorge de l'Aveyron. Là, on est sur des milieux les plus intéressants au niveau du département pour les reptiles, les amphibiens et plus globalement pour la biodiversité. Et ensuite, les milieux les moins intéressants, enfin en tout cas les paysages les moins intéressants pour les reptiles et les amphibiens sont la vallée de la Garonne, hein, qui a été grandement anthropisée, et toute la partie Lomagne. Voilà.
Ils sont protégés, ces reptiles amphibiens? Pas tous, j'imagine.
Oui, alors aujourd'hui, quasiment toutes, alors même je crois que toutes les espèces de reptiles et d'amphibiens de France sont protégées. Et dans le département, toutes les espèces présentes, aussi bien de reptiles que d'amphibiens, sont protégées. C'est-à-dire que le crapaud que vous avez au fond du jardin, c'est une espèce protégée. La grande couleuvre que vous voyez traverser la route, là, qui est noire et jaune, donc on appelle couleuvre verte et jaune, qui est l'espèce la plus commune du département et du sud-ouest, est une espèce protégée. Et donc il y a normalement interdiction de tuer ces animaux ou de les, enfin, tout simplement. On ne doit pas, normalement, on ne doit même pas les toucher, les ramasser.
Pourquoi vous dites normalement ?
Alors normalement, parce qu'on sait bien que l'homme ayant peur, notamment des serpents, quand il y a un serpent à proximité de lui, est souvent effrayé. Et il a tendance à les tuer par peur, tout simplement, en pensant que le serpent qui a été observé est forcément une vipère, ce qui est loin, très très loin d'être le cas.
Bah alors non, clairement, les reptiles et amphibiens sont protégés, et si l'humain a peur d'un truc qui bouge, c'est par bêtise.
C'est ça, par bêtise, c'est souvent par ignorance ou par habitude, on va dire. Moi, j'ai été élevé, comme la plupart des gens, dans la peur des serpents. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup des serpents, là. Au niveau quand on pense à reptiles, on pense à serpents forcément. Donc, il y a aussi les lézards et tortues, mais bon, on va cibler sur les serpents. Disons que moi, j'ai été élevé dans cette peur. Quand j'étais petit, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait « Ne va pas, Sébastien, au fond du jardin, il y a des hautes herbes et il y a des serpents. » Voilà. Alors là, c'était terrible, il y avait des serpents dans les hautes herbes. Puis bon, je me suis aperçu que les serpents, ils fréquentent pas forcément les hautes herbes. Et il n'y a pas de quoi en avoir peur. Voilà.
À noter, hein, et venez à cette conférence, donc samedi au Récollet, à Caussade. Dans une dernière partie de cette conférence, vous allez débattre des menaces et de l'avenir de ces espèces. Alors on voit qu'elles sont protégées, que ça ne rentre pas encore tout à fait dans tous les cerveaux. Là, actualité, l'eau, le manque d'eau, je pense aux amphibiens.
Oui, tout à fait, tout à fait. On va dire qu'on a deux grands types d'espèces. On a des espèces qui ont l'habitude de pondre dans des milieux qu'on appelle permanents, dans des milieux aquatiques permanents, c'est-à-dire des plans d'eau qui sont quasiment à sec ou jamais à sec toute l'année. Et on a des espèces que l'on appelle pionnières. Donc, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ont colonisé des nouveaux milieux. Et donc des milieux qui sont plutôt aléatoires d'une année à l'autre. Donc là, par exemple, on peut parler du crapaud là qu'on a au fond du jardin qui s'appelle le crapaud épineux. Bon, le crapaud marron là, bien pustuleux avec des yeux orangés là. Ça, c'est une espèce qui fréquente les milieux qui pondent dans des milieux permanents en général. Voilà. Donc cette espèce-là, elle va rechercher des points d'eau où il y a de l'eau sur une grande partie de l'année. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que c'est une espèce qui va avoir une durée de développement larvaire, du développement des histoires, qui est assez longue, et qui a un champ qui porte pas très loin, parce que les femelles savent retrouver les mâles chaque année, puisqu'ils pondent toujours dans les mêmes points d'eau, qui sont permanents. A contrario, on a une espèce qu'on appelle le crapaud calamite, et ça, c'est une espèce qui pond dans des milieux pionniers, donc c'est des ornières au milieu des cultures, une ornière sur un chemin, des flaques dans certaines prairies, là, en bordure de cours d'eau, et donc ce sont des milieux où il y a une faible lame d'eau, et donc ils sont soumis à un assèchement très rapide. Et ces espèces-là, donc, elles ont un développement, au contraire du crapaud épineux, le développement larvaire est très rapide. Et en plus, elles ont un champ qui est le crapaud calamite, c'est l'espèce d'amphibien qui a le champ le plus puissant d'Europe. C'est une espèce qu'on peut entendre par bonnes conditions météo à plusieurs kilomètres. Et donc ça permet aux femelles qui ne savent pas où sont les mâles de facilement les retrouver, quoi, puisqu'ils peuvent énormément se déplacer sur le territoire en fonction de la disponibilité des points d'eau temporaires. Et ces espèces-là, effectivement, actuellement, avec la chaleur, elles ont pondu dans des flaques, des ornières, qui s'assèchent très rapidement, et on doit avoir un échec de reproduction qui est beaucoup plus important que les années précédentes.
Parmi ces 11 espèces d'amphibiens et 13, voire 14 espèces de reptiles, vous allez faire un petit peu le tour de tout le monde dans cette conférence de ce samedi.
On va essayer, je vais quand même cibler sur les espèces les plus emblématiques. Donc on peut penser, là je vous parlais de ces deux crapauds, c'est toujours intéressant de pas d'en parler parce qu'ils ont des écologies totalement différentes. Mais je vais essayer en termes d'espèces emblématiques dans le département, on peut parler du triton marbré, qui est une espèce qu'on appelle durodèle. En fait, ce sont tous les amphibiens qui ressemblent grosso modo à des lézards. Hein. Donc des amphibiens qui ont quatre pattes à peu près de même longueur et une queue, à contrario des grenouilles et des crapauds. Concernant par exemple les reptiles, je pense surtout parler du lézard ocellé. Le lézard ocellé, c'est le plus gros lézard de France, hein, qui est une espèce méditerranéenne que l'on retrouve sur la partie des côtes du Quercy, autour des gorges de l'Aveyron, sur les zones de côte, et qui est une espèce qui est menacée au niveau national, comme au niveau départemental ou au niveau régional. J'ai parlé bien sûr de l'hyperaspic, une espèce aussi qui est très rare dans le département. Voilà, certaines espèces plutôt emblématiques, les plus communes on va dire, celles que les gens peuvent côtoyer tous les jours, les arts des murailles, couleur verte et jaune, et les plus rares ou les plus prestigieuses comme les arts ocellés ou la hyperaspic.
La salamandre, c'est un synonyme?
Oui, alors oui, la salamandre tout à fait, parce que c'est vrai que la salamandre plaît au grand public, elle a un aspect, on va dire plutôt un capital. Un bon capital sympathie, voilà, auprès du public, du fait de ses couleurs. C'est une espèce qui a l'air qui est très placide, voilà, on dirait un petit robot quand elle se déplace, c'est assez rigolo, et qui a de jolies couleurs, qui a une aura de mystère, là, qui date du Moyen-Âge, et aussi par exemple on peut parler de la rainette méridionale, c'est la petite rainette de couleur vert pomme là, qui parfois rentre dans les habitations, dans les vérandas, là, et qui va se mettre durant l'hiver sur une plante verte qui va y rester jusqu'à ce que quelqu'un daigne ouvrir une fenêtre là où, à la fin de l'hiver ou début du printemps.
Vous en parlez avec beaucoup d'amour, en tout cas, de ces petits animaux un peu gluants qui n'ont pas de bras et pas de jambes. Les amphibiens et reptiles du Tarn-et-Garonne, une conférence de vous-même, Sébastien Albimet, sur une invitation de l'Université populaire de Caussade. On peut retrouver tout le programme, savoir où, quand, c'est sur www.up-caussade.fr. Et on vous le dit quand même, c'est donc ce samedi à 16h30 au Récollet. C'est gratuit. C'est la dernière conférence de l'année de l'Université populaire. Donc autant aller aussi ce soir, vendredi, à Sept-Fonds pour une sortie sur le terrain. Une sortie à laquelle il faut absolument se réserver sa place auprès du CPIE Quercy-Garonne. Sébastien Albinet, responsable donc du pôle biodiversité du Bureau d'études et environnement. Je ne sais plus quoi, Albi, c'est quoi déjà ?
Artifex. Oui, c'est ça.
Et membre de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, on vous retrouve donc ce samedi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
CFM. Et la suite de ce mag à Miars pour la fête de l'osier. De retour, c'est ce dimanche 22 mai à partir de 10h pour en parler au micro de Jacques de CFM Cante sur Ciel, Sylvie Gravier et Cyril Blanchet du groupe de fleurissement de Miars.
Bonjour Sylvie, bonjour Cyril.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour nous parler de la 13e édition, mine de rien, de cette fête de l'osier qui se passe à la fois dans la salle communale du village, la salle Gérard Bosque, et puis dans la Soleil Jean-Pierre Barraud. Donc là on est en plein air. Les particularités et l'intérêt de cette fête de l'osier, Sylvie Gravier, parce que c'est une fête maintenant qui a plus de 10 ans et qui est inscrite vraiment dans l'agenda du village de Miars. Et pas que.
Oui, bien sûr, et j'espère que ça résonne un petit peu sur tout le territoire. Ça fait, oui, au moins une dizaine d'années qu'on fait cette fête de l'osier. Et avant, c'est dû à la création d'une solée dans le village, à la place des peupliers qui étaient au bord du Sérou, qu'on a tous fait couper. Et on a décidé de créer un jardin que de saules. Et bien sûr, les saules, comme peut-être tout le monde ne le sait pas, mais il faut qu'ils soient coupés tous les ans. Et donc, il fallait un groupe de personnes bénévoles qui veuillent bien couper les saules. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire les deux à la fois, couper le saule et faire une fête ensemble pour récompenser tous les bénévoles. C'est parti de là et ça a fait un petit peu boule de neige. Et ce qui fait que maintenant, on est à une semaine de coupe presque et d'ateliers, de création d'osiers vivants ou de petits objets. Et ensuite, qui se termine par le dimanche pour une grande fête de l'osier. Mais cette année, à cause des restrictions sanitaires, on a fait la coupe au mois de février. Et on a décidé de décaler la fête au mois de mai. Donc ça va être une première, ça sera un petit peu différent. Mais peut-être, peut-être une nouveauté, parce qu'on espère, si le temps le permet, que ce soit tout à l'extérieur, que les stands soient à l'extérieur, que le repas soit dans la soleil, sous forme de pique-nique et repas partagés, avec une soupe, bien sûr. Mmh. La soupe, parce que c'est un peu l'emblème de la fête de l'osier, et c'est ce qu'on offre à toute personne qui veut bien venir. Et puis, on va faire des animations dans la soleil. Il y aura des jeux pour les enfants.
Des jeux en bois, oui, effectivement.
Des jeux en bois. On va faire une tombola, bien sûr. Tout ça, c'est un peu pour réunir les gens, avoir une fête très conviviale, et puis essayer de faire une petite cagnotte pour le fleurissement du village.
Du village, ouais. Voilà. Non, on va en parler de ça aussi, des activités de votre association, hein, le groupe de fleurissement de Miars. J'en reviens juste sur ces fêtes de l'osier. La dernière édition, la 12e, donc il y a 2 ans maintenant, a réuni près d'un millier de personnes, ce qui est vraiment honorable pour une fête comme celle-là. Moi, je voudrais profiter de tes connaissances, on va dire, botanico-végétales. Pourquoi planter des saules à la place des peupliers ? Est-ce qu'il y a un intérêt au-delà du simple intérêt, on va dire, visuel ou pratique ou utile ?
Bon, il y a déjà l'intérêt esthétique. Et ensuite, les saules sont des plantes ripisylves. Donc, alors que les peupliers ne tiennent pas les berges et la terre, les saules tiennent les berges. Donc, en général, il était planté au pied du talus de rivière, en fait, pour tenir les berges. Plus ça aime l'eau, donc ça peut être inondé et c'est un terrain qui est inondable. Donc ça ne les dérange pas d'être les pieds dans l'eau, ça continue à pousser. Et ensuite c'est utilisé dans la vannerie, ça a des utilisations. C'était utilisé dans la vannerie, surtout le Salix vinamilis qui est l'osier exactement. Mais sinon il y a à peu près 20 variétés de saules dans la saulée qui sont utilisés pour d'autres choses. Et c'était utilisé aussi pour attacher la vigne ou n'importe quelle plante grimpante, parce que c'est un bois très souple et on faisait des attaches avec ça. Plutôt que de faire des attaches, maintenant on le fait avec du plastique. Bon, on peut revenir à attacher avec de l'osier, c'est beaucoup mieux.
Ce qui explique
et
donc
c'est plus esthétique cela. En plus.
Ouais. Alors, d'ailleurs, pour apprendre à vanner, pour apprendre à utiliser, pour apprendre aussi peut-être à entretenir un sol, eh bien, on a rendez-vous à la fête de l'osier le dimanche 22. Il y a différents types d'ateliers qui sont proposés comme ça tout au long de la journée. Est-ce qu'on peut dresser un peu un panorama de ce qui est proposé au long de la journée comme type d'atelier, d'activité?
Alors, c'est au libre choix des vanniers qui viendront. Mmh. On n'a pas une liste aujourd'hui complètement définitive des ateliers, mais c'est des petits ateliers, notamment de tressage. Une année, il y avait eu des cordes de gazelle, des cordes de gazelle,
faire des petits nids pour les oiseaux. L'ébauche d'un panier.
Voilà. Et après, il y a toujours des démonstrations que feront les vanniers sur des produits à eux.
Ok.
Qui vont demander beaucoup plus de temps. Parce que la problématique, c'est que réaliser un panier en une heure, c'est pas possible. Clairement pas.
Bon, si on veut partir le matin à Miars à la fête de l'osier, on se dit qu'on va rentrer le soir avec, c'est peut-être pas l'idéal. Mais par contre, on peut aller apprendre les petites astuces de base pour...
Notamment tout le travail aussi qu'il y a en amont, parce qu'en fait, l'osier ne se travaille pas directement. En fait, on peut, mais c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent de la vannerie sauvage. Souvent, donc là, on a des choses beaucoup plus aérées parce qu'en fait, il se travaille moins bien. Mm-hmm. Généralement, l'osier, il est séché, puis il est retrempé dans l'eau et là, il est travaillé en règle générale pour faire les paniers. On est plus sur ce processus-là. Donc, il y a quand même tout un processus en amont avant même la vannerie. On va dire la vannerie traditionnelle.
Oui. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais venu sur cette fête de l'osier, de rencontrer comme ça des personnes qui venaient, non seulement du Tarn, mais de l'Aveyron aussi, souvent des personnes âgées qui étaient ravies de transmettre leur savoir, de partager tout ça. Et puis, il y a aussi cet espace d'exposition-vente, hein, parce qu'il y a pas mal de produits qui sont proposés aussi à la vente durant cette journée-là. Ce sera toujours le cas, là, le 22 mai?
Tout à fait. On aura... Aujourd'hui, de sûr, on a à peu près une vingtaine de vanniers. Mmh. On a profité du fait d'être en extérieur pour augmenter le nombre de vanniers. Oui, il y aura forcément de l'exposition vente de leur part.
Et ils font quoi, tu sais, à peu près? Bon, des paniers, forcément.
Alors, on a cherché des vanniers qui faisaient des choses un peu différentes de la tradition. Il y aura forcément du panier parce que ça reste quand même l'objet traditionnel de la vannerie. Mmh. Mais on en a certains qui font des lampes notamment. On a des objets décoratifs aussi parce que grâce à certaines émissions de télé, la vannerie c'est intégré dans les décors, mmh. un peu bohème tout ça. Donc on trouve des appliques, des choses comme ça. De plus en plus, on trouve aussi de la vannerie très fine. On pourrait presque, ce qui s'apparente presque à de la dentelle, tellement c'est assez fin. On a des vanniers qui travaillent comme ça, avec des jeux de couleurs aussi sur l'osier qui est employé. Voilà, ce genre d'objet.
Et ce sera de 10h à 18h hein, à Millars, oui, village de Millars. Donc là, on s'installe pas très loin de la Solée, pas très loin non plus de la salle communale, la Gérard Bosque.
Voilà. C'est devant la salle. Mmh. Et s'il fait beau, c'est devant la salle et la Solée est jointe à la salle communale et au parking. Donc, on va faire plutôt se garer les gens un peu plus loin pour avoir tout cet espace libre pour que les enfants puissent courir et voilà.
Et jouer, s'amuser.
S'amuser et que les gens se rencontrent. Ouais. Parce que c'est un lieu de rencontre là, et de partage de savoir-faire en fait. Et le groupe du fleurissement va organiser un petit stand d'échange de plantes. Moi, il se trouve qu'il me reste plein de plantes de ma pépinière. Alors, je vais amener tout ça et puis les gens pour une obol de peut-être 1 ou 2 euros, ils pourront repartir avec une plante et tout ça, ce sera au profit du groupe de fleurissement. Voilà.
Et puis, sans toute convivialité à cette fête de l'osier, il y a une buvette qui est installée tout au long de la journée, un repas partagé à midi, chacun apporte un petit truc et puis le groupe de fleurissement offre la soupe qui sera froide ou chaude, vous savez les gens.
Elle sera chaude.
Elle sera chaude.
On reste
traditionnel sur la soupe.
C'est la soupe au fromage. Voilà.
Ah mais tiens, parlons maintenant du groupe de fleurissement pour terminer. Une association, un collectif, comment est-ce qu'on présente toutes ces personnes-là qui se donnent rendez-vous non seulement pour organiser cette fête de l'osier, mais pas que. Sylvie, toi qui en fais partie depuis pas mal d'années.
On a fait le choix de ne pas être en association. Donc en fait, c'est un groupe informel sous l'égide de la mairie. Donc il y a toujours des élus en font partie et ensuite un groupe de bénévoles qui se réunit de façon informelle, les gens viennent, ne viennent pas et c'est vrai qu'on se retrouve de toute façon une fois par mois, au moins une fois par mois pour faire des travaux d'intérêt général sur le village et donc on nettoie le village, on fait la taille, on a nettoyer le bâtiment du multiservice avant qu'il soit rénové. On fait des choses comme ça. Et au mois de juin, on va même recevoir l'association Citrus avec un chantier international de 12 jeunes qui viennent de tous les pays d'Europe. Et les bénévoles vont contribuer à leur montrer les chantiers, etc. et travailler avec eux.
Et puis tout le village sera forcément à cette fête de l'osier, hein, où il y a des ateliers, il y a des expositions, ventes, et ce sera le 22 mai à partir de 10h, hein, la 13e édition de la fête de l'osier dans le village de Millars. Cyril Blanchet et Sylvie Gravier sont venus. Cyril Blanchet, qu'est-ce que j'ai dit ? Cyril Blanchet.
Oui, c'est bien fait, ça. C'est bien
voilà,
ça,
Cyril Blanchet et Sylvie Gravier sont venus nous en parler. Ils sont tous les deux membres du groupe de fleurissement de Mihars qui nous donne donc rendez-vous à Mihars ce dimanche 22 mai. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci. Et merci Jacques, Jacques Nguégan, CFM Corte sur Ciel. Merci à vous les auditeurs d'avoir été avec nous tout au long de ce mag qui sera rediffusé à 17h et à 21h30. Réécoutable à loisir, à volonté, sans modération sur le site cfmradio.fr. Là, c'est les infos.